Chapitre 104. Mont Arara, camp kurde, Turquie. La luminosité commençait à baisser. Le soleil s'était depuis de longues minutes dissimulé derrière la large silhouette du mont Arara, sans que la lune ait encore pris son tour de garde. Une fraîcheur subite s'était abattue sur la montagne, que le feu timide au centre du campement tentait laborieusement de combattre. Dans la lueur des flammes, les iris gris des nomades kurdes prenaient l'éclat rougeoyant d'une lave en fusion, dévorant un champ de cendres. Aman tremblait dans les bras d'Esther. La plupart des hommes de Cortès, prudents et méthodiques, avaient allumé les capteurs infrarouges de leurs fusils. Les pastilles rouges dansaient entre les bergers kurdes assis en cercle et les toiles de tente, comme autant d'insectes de nuit attirés par la chaleur du feu et des corps. Cortès, seul, demeurait debout. Il se frotta avec satisfaction les mains au-dessus des flammes.
« Docteur Serval, l'heure est venue de vous révéler le secret de l'Arara. Tout le monde le connaît ici, du plus ignare des bergers kurdes à votre très cher professeur. Ne serait-il pas injuste que vous seul mouriez sur le mont sans être dans la confidence ?»
Cécile serra les lèvres. Cortès continua, indifférent à son silence.
« Pour vous aider à comprendre, je vais commencer par une métaphore. Un conte, si vous préférez. N'est-ce pas la méthode la plus efficace pour expliquer des évidences scientifiques à un profane qui peinera à les croire? Vous m'excuserez donc de débuter d'une façon on ne peut plus classique mon histoire. Il était une fois. Il était une fois un jeune homme qui rêvait d'aventure, comme tant d'autres, me direz-vous. Comment l'appellerons-nous? Je vous propose Hernan. Hernan, vous convient-il ?
Mutisme de Cécile. Cortès chauffa à nouveau ses mains.
Hernan vivait à cette époque que l'on baptisa les Grandes Découvertes. Une époque propice aux aventuriers, n'est-ce pas ? Le temps de tous les possibles. Hernan rêvait de longs voyages, de butins, de découvertes invraisemblables. Un matin, il s'embarqua. Il avait engagé un équipage improbable. D'autres aventuriers, quelques malfrats, prêts à tout pour partir, loin, mais des savants également, un prêtre, un médecin, un géographe, et vogue le vaisseau. Ils naviguèrent des mois, sans orientation autre que celle que leur donnait la position des étoiles, jusqu'à ce qu'un beau jour, ils trouvent une terre. Une île, peuplée d'indigènes, un véritable petit paradis, une jungle regorgeant d'eau, peuplé d'animaux qu'Hernan n'avait jamais vus, de plantes inconnues, d'hommes au langage différent. Que fit Hernan, à votre avis ?
Le feu crépitait dans le silence. Cortès promenait son immense ombre au milieu du cercle de lumière.
Ne soyez pas timide. Vous connaissez la suite, évidemment. Elle n'a rien d'original. Les indigènes prirent Hernan et ses hommes pour des dieux, et Hernan se garda bien de les détromper. Quelques petits tours suffirent. Le médecin sauva quelques vies. Les mercenaires tuèrent en échange quelques indigènes par des armes qui leur parurent aussi puissantes que la foudre tombée du ciel. Leurs armures les firent passer pour immortels. Les savants leur apprirent l'écriture, l'agriculture, l'architecture. Bref, Hernan et sa bande devinrent aussi craints que respectés. Ils se contentèrent un moment de cette vie de rêve. Eux, anonymes dans leur pays natal, étaient devenus des divinités à la tête d'une armée d'esclaves dociles et d'une caste de serviteurs zélés qu'ils eurent l'habileté d'entretenir par quelques privilèges distribués avec parcimonie. Et des femmes, bien entendu, si différentes de tout ce qu'ils avaient pu connaître, libres à eux de choisir les plus jeunes, les plus belles, de s'accoupler à elles. Oui, ils se contentèrent de cette existence paradisiaque un long moment. Mais Hernan savait qu'un jour ou l'autre, il lui faudrait rentrer au pays. La véritable gloire consistait à revenir chez lui en héros, puissant, richissime, pas à régner sur une bande de sauvages comme un caïd sur une cour de récré. Appelez cette envie comme vous voulez, ambition, ennui, mal du pays. Hernan devait quitter le paradis. Ils eurent beau chercher, ils ne trouvèrent pas d'or sur l'île, ni de pierres précieuses, ni de minerais. En revanche, l'île était riche de sa biodiversité. Du moins, c'est ainsi qu'on l'appellerait aujourd'hui. Sa faune, surtout. Hernan comprit que cela suffirait à sa fortune. Imaginez un instant la tête des hommes qui virent les premiers perroquets, les premiers iguanes, les premiers jaguars. Autant d'animaux dont ils n'auraient même pas soupçonné l'existence. Imaginez quelle somme ils auraient pu être prêts à débourser pour les voir, les toucher, les posséder, pourquoi pas. Hernan était un aventurier habile. Il échafauda en une nuit la stratégie qu'ensuite tous les conquistadors ont appelée « théorème de Cortés ». Le mercenaire cessa brusquement de parler. Dans le contre-jour, une ombre surgit face à lui, tendit le bras pour s'emparer d'un tison enflammé et le jeter sur le chef de la milice. Avant même qu'elle n'atteigne le feu, une tache rouge se colla sur son cou. La détonation retentit. L'ombre s'écroula, fauchée. Sa chute fut couverte par le hurlement d'une femme. « Ferhad !» La Kurde se dressa. Elle était presque aussi grande que Cortés. Sa tunique tachetée sur son long corps souple lui donnait des allures de panthère. Ses pupilles scintillèrent de fureur dans le jour finissant.
« Vous n'êtes qu'un !»
Un éclair lui traversa la mâchoire. Elle s'effondra. La danse des pastilles rouges sur les silhouettes des bergers kurdes dissuada quiconque de lui porter secours. Un vieil homme serra de toutes ses forces un garçon de 6 ans agité d'un tremblement épileptique. Les yeux gris du garçon, embués de larmes, prenaient la teinte trouble de l'eau stagnante d'un lac. Cortés ne parut pas plus importuné par les 2 cadavres à ses pieds que si 2 papillons de nuit l'avaient frôlé.
« Une stratégie, disais-je, simple, mais d'une redoutable efficacité. Un soir, Hernan décida de réunir tous les indigènes sur la plus grande plage de l'île. « Les dieux sont déçus, leur déclara Hernan. Vous n'êtes pas dignes de leur amour. Les dieux vous ont tout appris. » Vous ont dévoilé les secrets de la connaissance, et pourtant, le péché, l'orgueil, la concupiscence n'ont cessé de progresser dans vos cœurs. Les dieux ont donc décidé que leur colère s'abattrait sur vous. Vous m'excuserez de passer les détails du discours d'Hernan, mais je pense que vous avez compris l'idée générale. Peut-être l'accompagna-t-il de quelques sacrifices pour marquer les esprits. Concrètement, Hernan avait hésité entre incendier l'île ou rompre les barrages patiemment construits pour inonder l'ensemble des terres. Mais auparavant, il avait discrètement convoqué la caste des indigènes promus au rang de serviteurs des dieux. « Vous seuls serez épargnés », leur promit-il. En réalité, cette promesse revenait à les embarquer comme esclaves sur son navire pour les vendre aux plus offrants. « Vous seuls serez sauvés », affirma encore Hernan, à condition que vous nous aidiez.
Cortés s'approcha du feu. Les reflets d'encens des flammes dessinaient des motifs macabres sur son turban. La femme kurde étendue à ses pieds agonisait avec de longs râles.
Terriblement naïfs ces indigènes, n'est-ce pas? Une telle soumission m'a toujours sidéré. L'aide demandée par Hernan aux traîtres tenait en quelques mots, les convaincre de piller l'île. Hernan n'avait pour ainsi dire jamais quitté la plage sur laquelle il avait installé son trône. Les indigènes dans la jungle étaient bien meilleurs chasseurs que ses compagnons, même armés de foudre et vêtus de cuirasses.
Cortés saisit avec prudence une branche enflammée, puis l'approcha du visage de Cécile, comme s'il avait deviné la colère difficilement contenue de la chercheuse.
« Patience, docteur Serval. Autorisez-moi quelques mots encore. » J'en viens à l'essentiel. Le professeur Parella connaît déjà la fin de mon histoire, mais pour vous, sa conclusion sera instructive, n'en doutez pas. Hernan, disais-je, s'adressa en ces termes aux indigènes félons. Les dieux seront cléments avec vous si vous les aidez à sauver la vie sur cette terre. Éparpillez-vous dans l'île avant que la colère des dieux ne s'abatte. Fouillez, cueillez, chassez. Capturez un couple, mâle et femelle, de chaque être vivant. Rapportez-le sur la plage. Lorsque le jour du cataclysme viendra, nous les ferons entrer dans le vaisseau, avec vous, afin qu'ils puissent repeupler votre terre lorsque la colère des dieux sera apaisée. »
Cortès marqua un long silence. Les pensées de Cécile se bousculaient. Cortès enfonça le clou. Comme si elle n'avait pas compris où il voulait en venir.
« Sacrément crédules, ces indigènes, ne trouvez-vous pas ? Avaler cette histoire de rédemption divine après le cataclysme ?»
La flamme de la torche éclairait le turban pourpre de Cortès. La voix s'échappait de son invisible visage, comme soufflée d'un buste de Porphyre, qui aurait miraculeusement été doté de la parole.
« Je vais maintenant vous demander un petit effort, docteur Serval, un jeu de l'esprit d'une grande simplicité. Tout le secret de Noé repose sur un simple changement d'échelle. Repensez à toute cette histoire, mais imaginez seulement que les aventures d'Hernan ne se déroulent pas il y a 500 ans, lorsque l'Europe découvrit les autres continents, mais il y a 5000 ans. Imaginez seulement que ce ne soit pas des océans que traverse le vaisseau d'Hernan, mais l'espace. Que ces terres à découvrir ne soient pas des îles, mais des planètes. L'histoire demeure pourtant la même, strictement la même. Et c'est celle dont les premiers hommes conservent la mémoire. C'est très précisément celle que nous raconte la Torah, la Bible, le Coran, celle de Gilgamesh le Sumérien, du livre d'Enoch, et de toutes les autres légendes universelles du déluge et de l'arche. C'est tout simplement l'histoire de Noé. »
Cécile tourna la tête vers Arsène Parella, cherchant dans ses yeux un soutien, un secours, le moindre signe. Le professeur restait de marbre. Cécile aurait voulu se boucher les oreilles, se lever, hurler, au mépris des snipers. Elle hésita. Après tout, Cortès finirait par les abattre, d'un instant à l'autre, lorsqu'il aurait terminé de jouer avec eux. La main d'Arsène se posa sur son genou.
« Non, Cécile, » murmura-t-il.
« Votre professeur a raison, » insista Cortès. « Ne soyez pas si impulsive, docteur Serval. Je crois vous avoir déjà prévenu. À la différence du professeur Parella, vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. »
Les pastilles rouges des fusils à lunettes, telles des flammes échappées de l'âtre, dansèrent un instant autour d'eux avant que deux ne se posent sur la poitrine de Cécile. Cortès semblait les commander d'un simple mouvement de bras. La voix d'Arsène Parella s'éleva soudain dans le silence.
« Comment avez-vous deviné ?»
Cortès jubilait. D'un geste, il chassa les points rouges.
« Une évidence, professeur Parella. Une étrange évidence. Depuis mon enfance, curieusement, je me suis senti proche de Noé. Quel rapport pouvait-il y avoir entre ce prophète, ce vieux sage barbu, père des nations, et moi, la petite frappe azérie, pillant les mausolées arméniens? Quel autre rapport que le mont Arara dominant l'horizon? J'ai lu Parella. J'ai dévoré ces histoires de conquistadors qui me faisaient fantasmer, ces effroyables colonisations. Ces hommes devenus dieux, le fascinant théorème de Cortès, tout détruire jusqu'à devenir l'unique possesseur d'un chef-d'œuvre inestimable. Alors, Parella, la vérité m'est apparue d'une logique absolue.
Il marqua une pause.
L'épisode du déluge dans la Bible raconte l'histoire d'un pillage. Noé n'est ni un prophète ni un juste. Il se contente d'appliquer le théorème de Cortès. Voler les richesses de la terre, les détruire toutes sauf quelques-unes, puis s'enfuir avec son butin. L'arche n'avait pas pour but de sauver l'humanité, mais d'en emporter les vestiges. Noé n'est qu'un vulgaire aventurier. Si quelqu'un devait le comprendre, c'était moi, Parella.
Cortès se recula vers le feu, étirant encore son ombre. Du pied, il poussa le cadavre de Ferrad, et observa des lueurs à quelques mètres du campement.
Le vieil Enoch n'était que le serviteur des pseudo-dieux, un indigène recruté pour servir d'intermédiaire zélé, comme tant d'autres. Son récit ne raconte pas autre chose que sa trahison envers les siens, son recrutement par les dieux jusqu'à ce qu'ils échouent. Mais je parle, et je néglige mes invités. Je crois que nous avons de la visite. Notre brave Zaytine est arrivé, mais il n'a pas osé nous déranger en pleine conversation. Entre, Zeytin, entre. Romps le cercle, je t'en prie.
Zeytin avança dans la lumière. Son dos était trempé de sueur. Sans ménagement, deux mercenaires derrière lui jetèrent une silhouette à terre. La forme sombre s'effondra aux pieds d'Arsène et Cécile dans un cri de douleur.
Zach, vivant, pris, mais vivant. Vivant, mais blessé.
Tout de suite, Cécile remarqua la plaie ouverte à la jambe. Le sang avait séché autour d'une entaille d'une dizaine de centimètres qui s'ouvrait sur son tibia. Par quel miracle était-il parvenu à monter jusqu'au campement kurde? Au prix de quelle souffrance? L'instant suivant seulement, elle pensa au pire.
Yalin?
Zach fixa longuement Arsène, puis Cécile, puis à nouveau Arsène.
Yalin? Murmura Arsène.
Zach ouvrit la bouche, mais ne put prononcer un mot. Il se contenta de baisser les paupières sur un océan de larmes.